Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Maggot Brain de Funkadelic, n'est-ce pas, dans cette émission. Caméra silence, classe criminelle. Alors, on va écouter Gilbertin avant de passer au sujet du jour.
Première erreur, prendre de la drogue. Et deuxième erreur, en sortant de prison, ne pas me lancer à fond dans la musique. Nous, on traînait nos savates, oui, c'est ça, on traînait nos savates dans les rues, hein. On dormait dans les squats, on mangeait pas tous les jours à notre faim. Ça a duré deux petites années, hein. Voilà. Et après, de suite, on a essayé de devenir musicien.
D'accord, le mouvement punk est arrivé rapidement dans le sud-ouest, après un festival à Mont-de-Marsan. Ouais. Derrière, il y a eu toute une flopée de groupes qui ont apparu à l'époque, justement, de Caméra Silence.
Il y a eu d'abord une première génération, hein, de punk français, c'est-à-dire... Les Star Shooters, les Metal Urbain, les Stinky Toy, c'était autre chose. C'est après, avec la seconde vague, 1980, où vraiment le truc a pris avec les Bérus, nous, etc. OTH, qui ne faisait pas du punk, mais bon, qui était pris dans la vague, quoi.
Pareil, les légendes urbaines disent que vous êtes arrêté, vous êtes parti une fois en prison après avoir essayé de voler une sono.
Oui, c'est vrai.
Punk à l'époque, c'était les squats et vraiment la galère.
La débrouille. Il fallait bien se démerder. Donc, quand on était musicien en plus, il fallait bien quand même se payer des instruments, des amplis, des sonos, etc. Donc il fallait bien se démerder. Et bon, évidemment, quand nous étions capables de travailler.
La drogue est rentrée rapidement dans ce milieu, pas qu'en France, pas qu'à Bordeaux, ailleurs. Il y a beaucoup de groupes de cette génération-là qui ont été décimés, particulièrement au Pays Basque. C'était le cas aussi en France, à Bordeaux.
Oui, oui, c'est l'héroïne. Hein. À cette époque, malheureusement, la drogue omniprésente, c'était l'héroïne. Bon, évidemment, c'est toute une génération de qui a été sacrifiée, hein, un petit peu.
Alors, sur le rock à Bordeaux, si vous voulez en savoir plus, donc sur Caméra CNC, sur le rock à Bordeaux, il y a le bouquin Bordeaux Rock, qui est un pavé de, je sais pas, il y a au moins 800 pages. Et on va, à cette occasion-là, peut-être écouter des groupes comme Strychnine ou Stalag. Alors, allez, un petit lâche-moi de Strychnine. Ça me démange, de toute façon, avant d'entamer le vif du sujet.
Dans mon coin.
Donc ça c'était donc Strychnine avec Lâche-moi. Et on va écouter deux autres groupes emblématiques de la scène punk bordelaise, en tout cas selon le bouquin Bordeaux Rock. Donc on va écouter les Corbeaux de Reichstag avec Chauve-souris et ensuite on écoutera Dernier cri de Stalag.
We'll be right back.
Alors, donc, c'était à l'instant Stalag et Dernier Cri. Alors, j'avais interviewé Kik, le chanteur de Strychnine, en 2007. Et j'avais parlé de. Je leur avais demandé des trucs sur Caméra Silence. Et on va dire que Caméra Silence était vu comme plutôt extrême et à part par. Parce que Thierry Tuborg était là aussi, par Thierry Tuborg et Kik, donc de Strychnine. Et il faut noter que le batteur de Strychnine, donc je crois que c'est Boubou Maldoror, a joué dans Caméra Silence à un moment. Il les a dépannés sur des concerts en 83 ou 84. À l'époque où, il me semble, Gilles était en prison, Gilles Bertin. Voilà pour Caméra, pour Strychnine et on va dire le début de la scène punk. Donc Stalag, donc là le morceau date de 80. Au niveau chronologique, on a d'abord Strychnine qui est plus rock, on va dire un peu comme les Dogs. Strychnine s'arrête en 81. À côté, il y a Stalag qui démarre et il y aura des groupes en ST, donc Strychnine, Stalag, Stagiaire, etc. Mais bon, Stagiaire, c'est plus rock. Les Stilettos aussi, qui a, pareil, c'est plus rock. Et donc Stalag démarre dans le sillage de Strychnine. Et donc après, on a Caméra Silence, les Corbeaux du Reichstag, etc., etc. Mais Caméra Silence était un peu plus en marge apparemment. C'est d'après mes souvenirs du bouquin Bordeaux Rock. Alors, pourquoi on vous parle de Caméra Silence, de Bordeaux, de Stalag, de Strychnine? C'est parce qu'au festival Tour de Bulle, il y avait Stéphane Wary qui a été invité par monsieur David Berruet du label L'Euthanasie et de maintenant de Contre-Culture. Et donc, monsieur Stéphane Wary a fait une BD qui s'appelle « Les héros du peuple sont immortels », donc consacrée à Gilles Bertin et... plus ou moins lié à son bouquin 30 ans de cavale. 30 ans en cavale. Je me souviens même plus du titre d'ailleurs. Donc, c'était le week-end dernier et il y a une interview qui va arriver. Mais peut-être une petite présentation de monsieur Stéphane Wary. Déjà, on va parler, enfin, on va évoquer, enfin, pas moi, hein. On va évoquer une de ses bandes dessinées qui s'appelle Maggie Garrison, qui est liée à l'Angleterre. Et on écoute. Donc, c'est une interview sur le site, sur la chaîne Un Amour de BD.
Alors, le projet est né à la Comédie du Livre, qui est le Salon du Livre de Montpellier, où j'ai été invité il y a 3 ans, peut-être maintenant. Et où réside Lewis et résidait à l'époque Frédéric Niff, qui est le rédacteur en chef de Spirou. Et à l'issue du salon, Frédéric Niff me propose de travailler pour son magazine, donc Spirou. C'est vrai, alors je ne m'attendais pas à cette proposition-là, je n'avais pas imaginé travailler pour Spirou, donc j'avais spontanément, comme ça, j'avais rien en tête à lui proposer. Et Lewis, qui était dans les parages, s'est immiscé dans la conversation et immédiatement m'a dit bah, « Moi, si tu veux, je t'écris un scénario pour Spirou ». Donc c'est comme ça que le projet s'est initié. Ensuite, entre ce moment-là et le moment où on est réellement arrivé à Maggie Garrison, il y a eu peut-être un an de réflexion, d'aller-retour, on s'envoyait des mails comme ça de temps en temps. Et parce que c'est vrai que voilà, il y avait cette volonté de travailler ensemble pour Spirou, et puis il n'y avait pas plus, quoi. Donc ensuite, je lui ai suggéré éventuellement de travailler sur un polar, parce que moi j'avais envie de ça. Enfin, ça fait longtemps que je tourne autour de ce genre-là. Lui est pas vraiment, je suis pas sûr que ce soit un grand lecteur de polar. C'est pas forcément sa culture. Et du coup, j'avais aussi suggéré de regarder une série qui s'appelle Bored to Death, qui est une série américaine qui joue sur les codes du polar, mais de manière assez décalée, assez humoristique. Et je me disais que ça pourrait l'inspirer. Et ça a été le cas. Je crois que voilà, ça c'est comme ça que est né chez lui. le personnage de Maggie Garrison. Mais enfin voilà, c'était vraiment un jeu de ping-pong. Par exemple, le fait aussi que ça se situe à Londres, eh bien, c'était aussi une idée qui, c'est ce que je lui avais suggéré, cette ville-là comme lieu d'action. Moi, j'ai jamais fait autre chose que des bandes dessinées inspirées du quotidien et du monde contemporain. Enfin, je ne suis pas du tout un dessinateur attiré par le travail de restitution d'une époque. La bande dessinée de costumes ou des choses comme ça, c'est pas trop mon truc. Peut-être ça viendra un jour, mais pour le moment, en plus, je suis un peu... L'idée de reposer, enfin de me reposer uniquement sur une documentation, ça me convient pas tout à fait. Moi, ce que j'aime représenter, c'est les lieux où j'ai vécu, où j'ai habité, ce qui m'entoure. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé comme ça, dans cette optique-là. J'ai représenté notamment des villes où j'ai pu vivre, et là, c'est le cas de Londres aussi. Enfin voilà, pour moi, c'est le plus simple, c'est le truc le plus immédiat, c'est de retranscrire ce que je vois autour de moi. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être juste aussi. Je n'ai pas trop confiance en un savoir qui serait uniquement basé sur de la documentation. J'ai l'impression que ça ferait un peu toc. Pour ce qui est des lieux représentés, c'est des lieux où j'ai habité. Là, le quartier de Londres, notamment, où se situe l'action, qui est Kilburn, est un lieu où j'ai vécu presque 2 ans. Il y a longtemps de ça, hein. il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Mais donc je pense que voilà, je me suis quand même nourri de documentation, mais j'avais encore des ambiances qui m'habitaient. Enfin, je me suis aussi fondé sur des souvenirs que j'avais de cette ville. C'est exactement ça, c'est aussi pour ça que je pense que Lewis s'est senti à l'aise dans ce projet, puisque si ça avait été réellement un polar pur et dur, encore une fois, je crois que c'est pas forcément sa culture, c'est pas tellement ce qu'il a envie de faire. Donc oui, c'est une chronique sociale, elle est teintée d'éléments qui relèvent du genre polar, mais je pense que le but, c'est d'abord de raconter des personnages aujourd'hui dans le Londres contemporain. Effectivement, moi, mon plaisir de dessin, ça a toujours été ça. J'adore dessiner des balades, des gens qui marchent dans la ville, comme ça. Je pourrais me contenter quasiment de ça, dessiner des villes et des gens qui marchent dans la ville. Donc, toujours un certain frisson à représenter ce genre de scène. Et c'était aussi le cas dans les albums que j'avais pu faire avec Apollo, par exemple, où c'est toujours des récits d'errance, comme ça, de personnages qui traversent des décors. Et j'aime aussi représenter des lieux comme les pubs, enfin les bars, tous ces lieux de mixité sociale. Enfin, moi, mon plaisir de dessin, il est là.
Donc ça, c'est un extrait d'une interview de Stéphane Houari à propos donc de son ouvrage Maggie Garrison. On va écouter un morceau de Camera Silence qui s'appelle Identité. Pourquoi Identité ? Parce que ce morceau figure sur une compilation qui s'appelle Les héros du peuple sont immortels. Une compilation avec des groupes comme La Souris Déglinguée, comme Parabellum... Et il y a une pochette, enfin la représentation une représentation de la compilation, enfin d'une possible pochette de la compilation dans le livre, la BD justement de Stéphane Houari, Les héros du peuple sont immortels, donc consacré à Gilbertin. Et on écoute donc Identité. We'll be right back. Oui, alors c'est mieux d'ouvrir le micro, je crois. Donc, alors qu'est-ce que je disais ? Je disais que on vient d'écouter Caméra Silence avec Identité. Et donc, sur la compilation Les héros du peuple sont immortels, donc sorti chez Gouniaf Mouvement le 24 décembre 1985, merci Discog. Je disais que vous aviez les groupes OTH avec Hommes des cavernes modernes. Il y a un clin d'œil donc à OTH dans la BD. Le groupe de Bordeaux Parfum de femme avec Buscando. Un groupe qui s'appelle Single Tracks, le jeu. J'espère que c'est bien un groupe qui s'appelle Single Track et non pas une erreur. Vous aviez ensuite les Hot Pants, donc le groupe de Manu Chao avant la Mano Negra, donc le morceau Call My Name, les Portementaux, Voyou, les Rats avec le morceau Bébé Je T'Adore, ça c'est la face B. Et sur le 10 c'est la face Food et ensuite il y a la face Binder, donc les gens s'amusent bien, n'est-ce pas ? Fast Food, Fast Binder. Sur la face B, vous aviez les Thugs avec Emotion, La Souris Déglinguée avec Aucun Regret, Babylon Fighters, National Trouble, donc Caméra Science avec Identité, et Parabellum, le morceau Père Noël. Alors, on va donc écouter Stéphane Noiry à Tour de Bulle. Alors, le début d'interview est pitoyable, mais c'est la spécialité de la maison, n'est-ce pas ? L'intro, je parle. C'est parti. Donc, Festival à Tour de Bulle, interview de Stéphane Noiry pour, autour de Caméra Silence et autour de la BD en général. Alors, ça sera en vrac. On va commencer par... Maggie Garrison.
Par Maggie Garrison. Alors, moi, au début, je m'étais dit, c'est un polar, sauf que comme j'ai vu sur YouTube que c'est une interview, c'est pas tout à fait un polar, donc je commence par ma question initiale, et puis on va continuer. Est-ce qu'il y a un lien avec des séries anglaises comme Line of Duty ou The Long Shadow ? C'est la série, oui, des séries anglaises.
Alors, je connais pas les deux séries que tu mentionnes, mais il y a un lien, évidemment, avec les séries anglaises. C'était un peu à l'origine du projet que d'arriver à faire en bande dessinée ces séries qui peuvent être à la fois très ancrées dans une réalité sociale, dans la description de certaines duretés de l'Angleterre d'aujourd'hui, et bien souvent effectivement avec une dimension policière. Donc on avait ça en tête, les séries. Mais dans le fond, surtout ce qui nous avait réunis, moi, c'est que l'Angleterre, j'y ai vécu. J'y ai vécu 18 mois à Londres, à Kilburn très exactement. Et quand j'ai rencontré Lewis et qu'on a eu ce projet de faire cette bande dessinée ensemble, moi j'ai dit, je voudrais qu'on parle de Londres tel que Londres est aujourd'hui et pas comme on pouvait les voir en bande dessinée, par exemple. La bande dessinée continue à véhiculer pas mal de clichés autour de ce qu'est Londres.
Oh, par exemple, Jacques Les Ventres.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc moi, j'avais envie de montrer cette réalité-là, mais là où je rejoins la question, c'est qu'effectivement, cette réalité-là, on la voit dans les séries anglaises, mais on ne la voit pas ailleurs.
Donc c'est une série en 3 volumes. Il y aura une suite ou c'était juste un...
Alors, c'était... Ça boucle un arc narratif, là, les 3 séries, les 3 albums... termine le récit, mais on n'avait jamais envisagé s'arrêter là. On voulait simplement faire une pause parce que Lewis comme moi, on avait d'autres projets. On était aussi, enfin pour ma part, un peu épuisé après ces 3 albums que j'ai fait d'affilée en sortant un album par an. Et où ce sont des bouquins qui m'ont demandé pas mal d'énergie. Il y a énormément de documentation. C'est des livres très denses et très physiques à faire, donc j'avais besoin de faire une pause. Donc on a chacun fait, on s'est engagé sur 2 projets. On avait dans l'idée de reprendre et puis le temps passe et voilà, je ne sais pas aujourd'hui si on arrivera à retrouver un moment où, parce que c'est toujours pareil quand on travaille en collaboration avec un scénariste, il faut aussi qu'on s'entende sur un planning.
Oui.
Voilà. Donc ça reste en suspens. En tout cas, on n'a jamais exclu l'idée d'en faire un 4e, et surtout l'éditeur souhaitait qu'il y ait un 4e, parce que l'éditeur, pour le coup, lui, il était très satisfait de la série, donc il n'y avait pas de raison que ça s'arrête.
Alors, on va supposer que, enfin, de toute façon, je suis novice, donc vous êtes illustrateur,
oui.
Ou illustrateur et scénariste. C'est-à-dire, est-ce que vous avez, il faut toujours qu'il y ait un scénariste et vous illustrez, ou bien vous pouvez permuter, ou bien vous pouvez faire tout
Oui, alors ça dépend vraiment des projets. J'ai longtemps travaillé en duo avec un scénariste. La majorité des albums que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, c'est en collaboration avec un scénariste. Alors ça a pu être avec Lewis Rondal, j'ai aussi travaillé avec Apollo, Jean-Luc Cornette, Arnaud Le Gouefleck. Que des scénaristes de talent, mais surtout des amis. Enfin, moi, ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec des gens pour qui j'ai de l'amitié, avec qui j'ai des vraies affinités. Puis, petit à petit, et c'est l'envie aussi d'écrire moi-même mes histoires est devenue de plus en plus pressante. Donc, c'est le cas avec les héros du peuple sont immortels. Où là je suis scénariste et dessinateur. Le prochain bouquin sur lequel je travaille, de nouveau, je suis illustrateur et scénariste.
On va repartir au tout début.
Ouais, je voulais un endroit calme, ça.
Alors, ce que vous entendez derrière, c'est... Alors, vous avez trouvé un local isolé. On va dire que c'est plus ou moins une remise. Donc pendant un moment, il n'y avait personne. Et puis bon, les bénévoles et ceux qui travaillent à tour de bulle sont venus de plus en plus déposer leurs affaires ou en prendre d'autres. Donc c'est ce que vous entendez en fait en background, on va dire, à l'arrière-plan. On fait une petite pause et j'ai trouvé la bande-annonce de la série, enfin une bande-annonce par rapport à la série Line of Duty, donc on vous met ça. Alors je crois que c'est en anglais, mais bon, on va voir.
Allons-y, venez.
C'est fait, bien joué, les gars. Qu'avons-nous ?
Détournement d'un transport par des hommes armés portant des cagoules.
3 policiers assassinés de sang-froid.
Le détournement nécessitait un agent de la police.
Mon équipe ira au fond des choses. Le rubis et tout ça.
Bon, c'est du doublage bas de gamme. Alors on va essayer de trouver un autre extrait.
Mother of God. 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 Jesus, Mary, and Joseph. That's why I'm asking the organ grinder and not her monkey.
And we will be left holding a sprat when we should have landed a mackerel.
Well, she's cooked her goose now.
Now we're cooking with gas.
Now we're sucking diesel. Go on.
Now we're sucking diesel.
Now we're sucking diesel.
That's your big pan.
Voilà, il se moque du boss de Lacey 12. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver Ah ben, on va essayer de trouver ça.
Silver Command, copy.
Alors là, je décris, c'est le tout début de la série. Monsieur Arnott qui travaillait à l'unité de l'antiterrorisme. Et en fait, il y a une bavure, si je me souviens bien. Donc, ils doivent trouver un terroriste, justement, un terroriste islamiste. Et ils se sont trompés de porte. Donc, il me semble qu'il y a des dommages collatéraux. Hein. Je crois qu'il y a un enfant tué ou blessé. Et voilà, tout ça parce qu'en fait, ils sont trompés de porte ou d'étage. Et donc, à la suite de ça, donc, Monsieur Arnott, donc DC Arnott, il est transféré à Lacey 12, donc l'unité anticorruption. Il est choisi donc par le boss dont on vient d'entendre les expressions répétées. Enfin, les comment on appelle ça? Ce qu'il répète en boucle.
Four units on foot.
Southern 156, copy.
I have Alpha team coming in low. Bravo team high.
Southern 156, copy that. Bravo, overlooking, moving into position.
Toi, les docks, les tics.
Waiting on both, order imminent.
7156, standing by. Bravo, seconds away.
Alpha, sit rep.
We're in, going up.
Alpha in the building.
ETA, less than a minute.
We need a decision.
7156, still waiting on the order. Fifth floor. 7156, Bravo, are you visual?
Negative.
Where's that bloody order?
Southern 156, Golda signed off on health and safety. We need you to complete the risk assessment. We need that paperwork.
It's done.
Fahrenheit.
Could you repeat, Fahrenheit?
Fahrenheit.
Flat 56.
Alors, je précise que c'est pas un simple fantassin. Hein. Donc, il est officier, ou en tout cas, il est cadre, quoi. Il dirige des hommes à l'unité anti-terrorisme. Donc, quand il arrive donc à l'unité anti-corruption, bah, c'est pas un simple fonctionnaire. Donc là, l'unité antiterroriste arrive dans l'appartement, donc ils font sauter la porte et il tire et je crois qu'il blesse ou il tue un père, donc il porte un bébé, qui tient son bébé.
All units, shots fired! Shots fired!
Donc là, on a ici un autre qui court dans les escaliers. Puisqu'en fait, alors je suppose qu'ils devaient, ils devaient trouver une bombe, un artificier. En fait, donc il y en a un des hommes qui dit, mais en fait, il n'y a pas de bombe. Et donc on a un enfant qui pleure. Donc là, on voit d'ici un autre qui se penche sur le numéro de la porte, puisque la porte est par terre. Et je suppose que là, donc il y a marqué 56, et je suppose que c'est là qu'il réalise qu'il s'est trompé. Alors, en fait, c'est. Alors, sur la porte, ça devait, je crois que c'était le 56. Et le vrai numéro, c'est 56. Et apparemment, le 6 sur la porte qu'ils ont attaqué était tombé. Et donc, c'est marqué 59 ou un truc comme ça. Enfin, bref, ils vont trois portes plus loin. Et donc, dans la pièce, il y a des inscriptions. En arabe sur les murs. Donc on suppose que c'est là que c'était le bon endroit. Et il est désert. Alors que dans l'autre endroit, il y avait une famille. Il y a une famille. Bon, alors tout ça, donc pour présenter le Line of Duty, enfin pour présenter, là c'est juste le début, hein, parce que ça ne résume absolument pas l'ensemble de la série, puisque là on parle de l'antiterrorisme et le thème de la série c'est les policiers corrompus. Tout ça, pour présenter Line of Duty, ça n'a strictement rien à voir avec Maggie Garrison ni Stéphane Noiry, et donc nous on revient à l'interview.
Qui est Stéphane Noiry pour les gens qui ne connaissent absolument pas pour les gens qui, déjà, par exemple, n'ont jamais entendu parler de Caméra Silence, parce que moi, c'est par rapport à Caméra Silence, je suppose qu'il y a des gens, ça va être pareil aussi.
Oui. Alors, je suis né en 1970, en 1er avril, à Nantes. J'ai vécu à Nantes jusqu'en 88, mon bac.
Il ensuite... y a une question qui tombe à plein, alors.
Et après, je suis parti habiter à Strasbourg, où j'ai suivi des études d'architecture. Voilà, ça c'est pour... Après, moi j'ai aussi, en parallèle à la passion pour le dessin, très vite j'ai commencé à écouter du punk. À mon adolescence, au collège. Et c'est devenu très très important dans ma construction, à tel point que quand je suis arrivé à Strasbourg, très vite, j'ai fait de la musique. En fait, j'ai commencé à faire de la batterie dans deux formations. Et à tel point que je ne savais pas très bien si je voulais faire de la musique à plein temps ou du dessin. Il y a eu un moment comme ça où je faisais les deux pour finalement décider que je mettrais toute mon énergie dans le dessin parce que je me rendais bien compte que vivre de la musique, ça semblait un projet un peu...
Alors, comme... Il a parlé de Nantes. Je vais vous passer Squealer, donc, qui s'est vissé à Nantes à peu près dans les années 80. Alors, Squealer, c'est un groupe de heavy rock donc nantais qui chante en anglais. Une petite influence AC/DC. Et donc, bon, ils ont eu quand même une certaine importance au niveau national parce qu'ils ont, ils se figurent sur la compilation Hard Rock Rendez-vous notamment. Squealers, Balls Out. Alors je passe le groupe parce que c'est un groupe de Nantes, hein. Ça n'a rien à voir avec le punk.
Du talent, il y a Pascal Bailly, Yann Chamberlain, Laurent Le Châter et les autres s'appellent comment ?
Roland Girard à la batterie,
oui.
Et Jean-Marc Delalande à la basse.
Alors avant d'engager, de croiser le fer, tout de suite, qu'est-ce que c'est que le hard rock ? Si vous n'êtes pas super branché comme tous les téléspectateurs de la 5, donc ça veut dire que vous venez des autres chaînes et que vous découvrez la 5 tout à fait par hasard. Alors...
We'll be right back.
Okay. Shoot you until I'm down. I'm ready to sing for another game. Your lipstick my trigger, babe, but I can't explain. Each time I think that there's nothing up my door. Do your body and your clutch become my home? God, they like it for the right way and you back down. All balls out!
All balls out! Yes, we got 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 all balls out!
C'était Cockney Rejects qui reprenait Motorhead de Motorhead. Et vous comprendrez en écoutant la suite de l'interview pourquoi il y a ce morceau.
Un peu compliqué. Donc à ce moment-là, je suis venu habiter à Paris et je commençais à démarcher les maisons d'édition, etc. Et là, j'ai commencé à vivre du dessin comme illustrateur au départ. Je travaillais beaucoup pour la presse jeunesse. J'ai aussi...
Vous avez fait un... capsules cosmiques,
voilà,
c'est ça.
Voilà, j'ai créé avec des camarades d'atelier, on a créé un journal qui s'appelait Capsule Cosmique, qui était un journal de bande dessinée, destiné à la jeunesse, mais avec un esprit un peu punk, on va dire, c'est-à-dire une façon d'approcher la bande dessinée jeunesse un peu pas très conventionnelle, on avait un esprit un peu décalé. C'est une revue qui a existé pendant plus de 2 ans et qui a fait date parce que on a accompagné l'émergence de toute une génération d'auteurs, d'autrices dont on parle beaucoup aujourd'hui. Par exemple, on a été les premiers à publier Anouk Ricard, qui aujourd'hui est Grand Prix Angoulême et dont les bandes dessinées sont très largement lues et commentées. Enfin, c'est quelqu'un qui a démarré avec nous, mais on a publié Lisa Mandel, Catherine Meurice, beaucoup d'auteurs qui émergeaient à ce moment-là. Et cette revue, ça a été un peu un accélérateur de ce point de vue-là. Donc ça a été une grande fierté de faire cette revue. Bon, malheureusement, on n'a pas pu aller au-delà de 2 ans, parce que pour des raisons économiques, on va dire. Mais ça a été important dans mon parcours, parce que finalement, très vite, en parallèle d'être auteur, j'ai commencé à toucher à des activités éditoriales. Donc cette revue, après j'ai dirigé un collectif chez Dargo sur Motorhead, par exemple. J'ai toujours eu cette envie aussi d'accompagner des collectifs et d'avoir cette activité éditoriale.
Mais le collectif sur Motorhead, c'était pour faire des ouvrages sur Motorhead, ou c'était juste des gens qui étaient fans de Motorhead, ouais, et qui faisaient de la BD, mais qui n'avaient rien à voir forcément avec...
Ouais, c'est un livre un peu particulier, donc il s'appelle Nous sommes Motorhead.
Ah, c'est un livre.
Ouais, c'est un livre. C'est un livre avec... j'ai dit un collectif, puisque c'est un livre qui rassemble différents auteurs qui, effectivement, étaient fans de Motorhead. Mais l'idée, c'était pas de faire... comme il en existe beaucoup, des bandes dessinées hommage à je ne sais pas quel musicien... Et ça consiste la plupart du temps à illustrer des chansons ou des morceaux.
Oui, j'ai vu la souris, les Tugs.
Ouais, voilà. Là, l'idée, c'était plutôt autour de l'univers de Motorhead, mais ce que ça a pu représenter, cette musique-là, notamment durant l'adolescence. Et c'est des récits sur les premiers émois de tout ordre, mais émoi musical, mais pas seulement. Et c'est un livre sur l'adolescence, en fait, et sur... ce que ça a pu amener cette musique-là pour pas mal d'entre nous, enfin dans notre construction là aussi.
Alors je reviens sur Strasbourg et la batterie.
Ouais.
Vous jouiez dans, enfin les groupes, c'était des groupes de rock. Enfin, au sens, est-ce que c'était les groupes qui avaient un lien avec le rock alternatif ou le punk, ou c'était complètement autre chose?
C'était des groupes qui étaient lié, en fait, à ce moment-là, je dirais que les plus grosses influences, c'était le garage punk.
Oui, donc il y avait un lien quand même.
Voilà.
Enfin, je pense au Vent Passe, par exemple.
Tout à fait, oui. Ouais, moi, j'ai tout développé assez rapidement une passion pour les compiles, Nuggets, etc. Enfin,
je suppose que vous connaissez la revue Glissings.
Oui, oui, oui. Donc ça, c'était un des trucs, une des... des choses sur lesquelles on s'était retrouvés, mais on a développé nos propres compositions. C'est devenu... c'était très, très énervé. C'était très un son vraiment pourri. Et donc, pour moi, je considère que c'est du garage, mais c'est du punk. Enfin, je fais pas forcément de... Je mets ça, tout ça un peu dans le... Ça, c'est pour le premier groupe, ça s'appelait les Ladas. Et ce qui était amusant avec ce groupe, c'est le bassiste, c'était un peu notre grand frère. Lui, il avait déjà pas mal de choses, il avait fait pas mal de choses derrière lui, dont un groupe que je trouve extraordinaire, qui s'appelle A-Bombe. C'était un groupe strasbourgeois.
Ça me dit quelque chose. Entre punk et hard rock.
Ouais, je recommande vivement. Et lui, il a été formateur pour nous, parce qu'il avait fait déjà pas mal de concerts, il avait ce groupe avant... Et ça nous a éveillé aussi à d'autres influences. Et ça nous a donné de l'assurance. Après, le second groupe s'appelle El Camino. C'est un groupe avec l'un des frères Normal qui font le groupe Crash Normal. Alors là, on est plus sur des choses noise. Enfin, noise. Ça reste du garage, mais avec...
Comme...
Alors, on va écouter du A-Bomb. Et si vous êtes sage, je vais trouver un morceau lié à Nuggets. Mais d'abord, A-Bomb. Le morceau, c'est Hooligan, filmé dans l'émission Décibel en 86. Alors, ça c'est Dr. Feelgood, mais c'est pas ça que... C'est pas... Alors, c'est bien d'ouvrir le micro quand on parle. Donc, je disais que, à l'instant, enfin, c'est pas Dr. Feelgood que je voulais vous faire écouter, mais donc, au niveau garage, le groupe californien The Seeds, et on va vous passer le morceau Can't Seem to Make You Mine. We'll be right back. j'aurais pu aussi passer le fameux Psychotic Reaction des Count Five, mais voilà. On reprend l'interview.
Gallo, par exemple, pour citer.
Non, mais je pense à... Enfin, ici, il y avait Portobello Bones.
Ah oui, Portobello, oui.
Je suppose que vous connaissez Franck Violence. Enfin, le fanzine Violence, ah, ah, oui. Et puis lui, il s'appelle Frank Freshnik, son vrai nom. Parce qu'il y a un bouquin d'entretien qui est sorti, et bah, c'est la scène des Dirty Guns, etc. Je trouve cette scène-là.
Oui, 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 un peu. Il y avait ça, et puis des. Ce qui était marrant, c'est qu'on avait une chanteuse américaine qui était à Strasbourg, un peu par hasard. Elle était tatouée intégralement, elle travaillait dans un salon de tatouage. Alors elle avait une présence, elle était hyper charismatique sur scène, c'était assez génial. Et il y avait ça aussi, le fait d'avoir une chanteuse avec un américaine avec un côté vraiment un peu white trash, ça donnait un truc assez marrant.
Alors, ma question qui tombe à plat, du coup, moi je voulais savoir si vous avez côtoyé des groupes nantais rock comme comme Squealer. Enfin, Squealer, ouais. C'était du hard rock. Il y avait, bon, il y a Elmer Footbeat, bon, je pense. C'est quoi l'autre nom? Zabriskie Point, je savais même pas qu'ils étaient de Nantes.
Ouais.
Enfin, au sens, est-ce que vous avez côtoyé pour soit vous les voir en concert ou par exemple faire des illustrations pour eux ou des t-shirts ou
Non, en fait, Nantes, je n'ai pas vraiment traîné. Dans cette scène-là qui était pas très vivante hein, d'ailleurs, parce que Nantes, moi je suis parti en 88, c'était quand même un peu endormi hein, ce qui se passait, c'était plutôt à Rennes ou... Nantes, ça a commencé à devenir intéressant Nantes après que je sois parti. Moi disons que j'écoutais du punk à la radio, sur une radio à Nantes dont j'ai oublié le nom souvent, qui retransmettait un peu les concerts qu'il y avait au Floride. Donc il y avait, toutes les choses. Mais le groupe finalement que j'ai pu côtoyer, c'est parce que j'avais un copain qui les connaissait alors qu'on était au lycée. C'était un groupe qui s'appelait Picasso y los Simios. Et un groupe plutôt new wave, mais assez marrant, assez énervé aussi. Donc j'étais à Nantes au moment où ce groupe-là était assez actif. Et c'est plutôt à Strasbourg où là, pour le coup, j'ai côtoyé pas mal de musiciens, de groupes. J'ai travaillé dans une salle de concert pendant longtemps, qui était à la Laiterie. Où là, j'ai fait des affiches pour le festival des artefacts. C'est plutôt à Strasbourg, je dirais, que les choses... se sont concrétisés que Nantes, j'étais chez mes parents, j'avais à peine le droit de sortir.
Non, la Laiterie, oui, j'y étais allé, mais moi pour les concerts trash, death, etc. Ouais. Surtout, j'ai vu Cannibal Corpse, j'ai vu quoi. Il y avait des festivals, ça s'appelait le No Mercy Festival,
ouais.
Donc avec c'était six gros noms, quoi, genre Morbid Angel, Emperor, Immortal. Mais ça, c'est à la fin des années 90. Est-ce que vous avez illustré des fanzines musicaux ? Donc j'y reviens.
Des fanzines musicaux.
Je suppose plus à Strasbourg qu'à Nantes.
Ouais. Bah, à Strasbourg, je faisais du fanzine. Hein. J'avais un premier fanzine, bah, justement, avec notre qui s'appelait L'Avenir Radieux. Donc c'était de la bande dessinée, et puis on parlait de musique. J'en avais fait un autre après qui s'appelait Caramel. Pareil, il y avait un peu de chronique de musique et puis de la bande dessinée. J'ai fait, comme je travaillais pour la Laiterie, j'ai illustré le programme de la Laiterie, j'ai fait des affiches pour le festival, des choses comme ça. Puis je faisais
c'est bizarre parce que L'Avenir Radieux. Enfin, un fort à l'héros du peu sang immortel, ouais. Ça fait un peu, entre guillemets, propagande très très à gauche.
Oui, je ne le cache pas. Oui, bien sûr.
Alors, ça c'est fait. Alors, transition pour morceau de bravoure. Est-ce que vous avez vu le film et la série aussi, This is England?
Oui, j'ai adoré. Ouais. Ouais, j'ai vu le film et puis j'ai découvert qu'il y a eu une série. J'ai découvert ça il y a un an. Elle a été diffusée intégralement sur Arte. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si les derniers commençaient à devenir un peu plus.
Bah justement, moi je préfère.
Alors, on arrive à la fin de l'émission. Alors. Jusqu'ici, vous aurez compris, on n'a pas trop abordé la BD Les héros du peuple sont immortels. On va quand même vous mettre, donc par rapport à This is England, on va voir si c'est de la bande-annonce intéressante. C'est parti.
Oi.
Talking to me.
How many people can you fit in a minute?
I don't fucking know how many.
Three in the back, two in the front, and your fucking dad in the ashtray.
Oh, fuck off! I've been picked on three times today.
I don't like it anymore. I liked it better when we were with dad.
Well, I liked it better when we were with dad, but dad's gone now.
What is your name?
I'm Sean.
Sean? I'm Woody, mate. Nice to meet you. That there's Milky, my main man. Pukey's a bit of a nutcase, don't wind him up. That's Kez, he's pretty chilled out, he'd be all right. And this fat idiot's gadget.
Woody wants to know if you're coming hunting.
How's that? How's that?
Alors, le This is England et Line of Duty. Donc, il y a deux acteurs en commun. Donc, on a Vicky McClure et alors celui qui joue Combo, je crois que c'est Thompson son nom. Gordon Thompson ou Robert Gordon, je me souviens plus. Attendez. Stephen Graham, voilà, donc totalement faux. Voilà, Stephen Graham qui joue donc Combo et qui est dans la cinquième saison de Line of Duty.
A minute, 20 years ago when I was fucking 12.
Our country has been stolen from under our noses.
Yes!
Well, gentlemen, it's time to take it back.
You filthy, packy bastard.
There's 3.5 million unemployed out there. And that fat yet turns us on a fucking phony war.
Fuck off! My fucking dad died in that war!
Sean, are you okay?
Voilà, donc, bande-annonce de This is England. Et bah, il va peut-être être temps de faire les news. Et donc, on écoutera la suite de l'interview la semaine prochaine. Alors, on vous cherche le générique des news. Hein. Ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Alors, les news. Alors, on apprend la réédition en version deluxe et super deluxe, c'est-à-dire d'un côté 5 vinyles plus un Blu-ray ou 4 CD plus un Blu-ray. Ça, c'est une nouvelle Thank You. De l'album des Rolling Stones Black and Blue, sorti en 1976. Un album qualifié de funk and roll, donc par Thank You, élaboré au studio Musicland de Giorgio Moroder, avec donc Billy Preston en complément. Donc, on va dire que c'est l'album le plus funk des Rolling Stones. Donc je suppose que c'est donc avant la vague disco, When I Miss You, etc. On change de registre. Le groupe death metal italien Into Darkness a sorti une compilation chez Terror From Hell Records qui s'appelle 2012-2018 Data Collection, enfin 2012-2018 Data Collection. Et en fait, il s'agit de diverses démos et EP sortis sur la période 2012-2018. Into Darkness, comment il s'appelle ? Reborn from Ashes, ou alias Mexican Underground Metal. Donc, il aime bien ce groupe italien. On reste dans le death avec Nihilistic Holocaust, le label donc. Et la distro, ils ont sorti l'album du groupe Féretro. Donc c'est du death metal chilien qui existe depuis 20 ans. Et donc c'est le premier album, ça s'appelle The Mortuary Destiny of Flesh. Le Keep It True Festival de 2026 annonce un concert spécial, puisque Mantas et Abaddon vont célébrer les 45 ans de l'album Welcome to Hell. Donc on parle de Venom bien sûr, avec des guests. Il y aura notamment au chant et à la basse. Hein. Il y aura notamment Thomas Gabriel Warrior de Celtic Frost Hellhammer, Triptychon aussi, Tom Angel Reaper de Sodom, Schmier donc de Destruction, Attila Xiar donc de Mayhem et j'oublie l'autre le nom de son autre groupe. Danny Lilker donc de Nuclear Assault et la chanteuse Diva Satanica. Il y aura d'autres guests et donc ça sera le 24 avril 2026. Et une triste nouvelle, donc je pense qu'on en parlera beaucoup plus la prochaine fois. Donc la disparition de Joan Cheziman alias Asata Shakur, elle nous a quitté le 25 septembre 2025. Qu'elle repose en paix. Et vous connaissez l'importance de cette figure noire américaine pour Maggot Brain. On revient à l'émission et à l'interview. On va peut-être terminer avec un morceau de La Souris Déglinguée, puisqu'on a le guitariste Jean-Pierre Mijoin qui nous a quittés également. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Donc on va écouter le morceau Nouvelle Aube.
Whoa. car tu t'en fous. Car tu es plus que fier d'être le fils de personne. Je te vois à ta fenêtre et derrière tes barreaux. Tu fixes l'horizon, t'attends la nouvelle aube.
Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube.
Attends.
Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube.
Ta fenêtre est derrière tes barreaux. Tu fixes l'horizon, t'attends la nouvelle aube.